Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Il y a 11 ans, ma femme d'aujourd'hui divorce de son mari juste après son accouchement. Depuis, elle s'occupe seule financièrement de son fils. Mais ce n'est pas la raison initiale de son témoignage dans « Femme d'aujourd'hui ». Elle souhaite sensibiliser l'opinion publique au sujet de la loi qui régit les gardes et tutelles dans le cadre des divorces au Maroc, un contexte qu'elle juge frustrant, car bien qu'il ne rencontre pas son fils, l'autorité du père est toujours présente, voire omnipotente.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Zineb Semlali, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, la Zineb ?
Bonjour Yasmine, ça va très bien, merci. Et toi ?
Un plaisir de t'avoir. Très heureuse de discuter avec toi.
Merci également Yasmine.
Alors Zineb, on va commencer par le commencement. Il y a quelques années, tu as vécu une expérience douloureuse. Tu as vécu l'adultère et bien plus encore. C'est bien ça ?
Tout à fait, oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était à quelle période de ta vie de femme ?
Alors c'est... quand j'ai accouché donc de mon fils en 2010, voilà.
Donc tu étais enceinte quand ça s'est passé ?
Alors j'ai découvert par la suite que ça a commencé quand j'étais enceinte. Mmh. Voilà. Donc mon ex-mari, il m'a trompée avec quelqu'un quand j'étais enceinte, effectivement. Donc je voyais que bon, il était différent, etc. Mais on peut imaginer aussi que le papa, à l'arrivée d'un premier enfant, il peut être un peu angoissé, il peut être un peu distant, bizarre. Donc voilà, même pour moi, c'était une nouvelle expérience. Mmh. Enceinte. C'était la fin de la grossesse, autour des 3-4 derniers mois. Donc voilà, c'était pas très fluide entre nous, sans vraiment de dispute. Mais il y avait déjà, ça se passait pas très bien. Il était assez distant. Et moi, j'étais très concentrée sur ma grossesse, sur, voilà, je voulais rester zen, si on veut. Mmh. Et par contre, dès que j'ai accouché, il était vraiment complètement absent. Complètement, il s'est jamais réveillé avec moi une nuit, il n'a jamais donné un biberon, il m'a jamais aidé à changer une couche. On dormait plus ensemble parce qu'il fallait pas qu'il soit réveillé une seule seconde à cause de son travail le lendemain. Il ne fallait pas qu'il soit réveillé par les pleurs du bébé. Et il faisait la tête tout le temps, énervé tout le temps. Donc, moi, je passais la moitié de mon temps chez mes parents, carrément. Parce que il n'était pas heureux à la maison, il était désagréable. Mmh. Puis un bébé, ça ressent tout aussi. Et j'allaitais, et je me réveillais la nuit, c'était compliqué, donc j'allais très souvent chez mes parents.
Alors, une petite question, Zineb, pardon. Oui. Une petite question. Une jeune maman, on sait que la grossesse, l'accouchement en soi perturbe complètement la femme, enfin, parce que c'est des histoires aussi d'hormones, etc. Donc quand s'ajoute à cela un mal-être au niveau du couple, ça décuple, j'imagine, toutes les sensations négatives.
Justement, sauf que j'ai fait énormément de travail, parce que je voulais absolument pas que mon bébé ressente tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je quittais la maison et j'allais chez mes parents pour être dans un environnement plus joyeux, plus serein, avec de la famille autour. Et donc, c'était très, très difficile, mais je me suis beaucoup concentrée sur mon bébé. J'essayais de parler avec lui, j'essayais de faire en sorte pour qu'il ne soit pas dérangé, justement, par les pleurs, etc., de lui dire « viens embrasser le bébé » quand il était réveillé, quand il souriait. Même quand on était à la maison, je continuais à inviter des amis à la maison pour qu'ils voient que
la vie continue.
Elle change pas, ouais. Complète. Voilà, que la vie continue. Donc j'ai invité des amis, même si j'étais fatiguée après une nuit blanche, pour qu'ils voient que la vie continue, même s'il y a l'arrivée d'un bébé. Non. Donc moi, je pensais que c'était l'arrivée du bébé qui perturbait, mais en fait, non. C'était pas ça.
C'était pas ça.
Non, pas du tout. Il avait rencontré quelqu'un pendant que j'étais enceinte. Et donc, il avait la tête complètement ailleurs. Et il ne voulait pas être dérangé parce qu'il avait une vie en parallèle. Voilà. Donc c'était pas du tout par rapport au bébé. On n'avait rien à faire du bébé, de la maison, de tout. Mais il avait la tête ailleurs.
Donc tout ça, ça s'est passé en 2010.
Tout ça, ça s'est passé tout à fait entre 2010 et 2011.
D'accord. Voilà. Donc entre l'arrivée du bébé.
En 2010, oui.
Et donc au début de l'entretien, tu as dit mon ex-mari. Donc vous avez divorcé?
Ah oui, on a divorcé.
Ouais.
On a divorcé en 2012. Début 2012, mais bon, il a entamé toute la procédure fin 2011, hein, depuis l'arrivée du bébé, ça y est, si on veut, ça y est, j'étais plus à la maison, on dormait plus dans la même chambre, chacun faisait sa vie, et ce qui était très très difficile pour moi, c'est que quand on sent que ça va pas, même s'il n'y a pas vraiment de dispute ou... Voilà, il était très nerveux, il était à fleur de peau. J'essayais d'avoir une conversation avec lui. Mmh. Et à chaque fois que j'essayais de lui parler, il était très énervé. Il m'envoyait balader, il claquait la porte et il sortait prendre l'air. Mmh. Donc il n'y avait pas moyen de communiquer. C'était impossible. Et des fois, je lui ai même dit plusieurs fois, écoute, on voit bien que ça ne va plus entre nous, qu'il n'y a plus rien entre nous. Si c'est le cas, ou si tu as quelqu'un d'autre, ou même si tu n'as pas quelqu'un d'autre, on peut toujours se séparer. Et le faire sereinement et que voilà, chacun vive sa vie. Mais, ça
mais qu'est-ce qu'il disait, lui, à ce moment-là?
Ah, là, il était très agressif. Très, très, très agressif.
Il n'assumait pas qu'il avait...
Il n'assumait pas. Uh-huh. Il me voyait, moi, à la maison, qui était toujours là, souriante, qui essayait de faire plaisir, qui invitait des amis. Je m'occupais très bien du bébé. C'est-à-dire que moi, je suis restée égale à moi-même, en fait.
Oui.
Mais qui a fait sa vie en parallèle.
Mais comment ça s'est confirmé en fait la présence d'une autre personne?
Eh ben comment ça s'est confirmé? Alors justement, dès que je lui disais, moi je sens qu'il y a quelqu'un d'autre, et là il devenait très agressif. Mais comment veux-tu qu'il y ait quelqu'un d'autre? Tu vois pas comment je travaille jour nuit? Alors cette autre personne travaillait avec lui. Et lui, il avait de temps en temps des gardes la nuit, tous les mois et demi, sauf que là, ça devenait tous les trois jours, la garde. Okay. Donc voilà, il n'y a pas besoin. Nous, les femmes, on ressent beaucoup de choses. Hein. Et puis, il n'y a pas besoin d'être très intelligente pour comprendre. Donc ça, c'était tous les deux, trois jours. Ça devenait... Un jour, je n'en pouvais plus. Ça y est, je n'en pouvais plus qu'il nous nargue, moi et le bébé, à la maison. Et puis, je lui dis, écoute, j'ai envie de partir aujourd'hui. Chez mes parents, avec le bébé. Tu veux divorcer, tu divorces, tu veux réfléchir, tu fais ce que tu veux. Je ne veux pas de problème, je ne veux pas d'histoire. Moi, j'en ai marre de cette ambiance tendue à la maison. Donc, je prends mon fils, mes affaires, je pars aujourd'hui, tu sais où je suis. Il m'a dit OK. Il m'a laissé partir. Parce que lui, il n'a jamais osé ni discuter, ni faire un pas en avant. Il m'a laissé partir. Je vais chez mes parents et je reçois la demande de divorce 15 jours après. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, toute la
Zineb, j'ai l'impression, ça fait pratiquement 12 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup d'émotions.
Il y a beaucoup d'émotions, je vais vous expliquer pourquoi il y a de l'émotion. Ce n'est pas par rapport au divorce en soi, du tout, parce que cette dernière année, il n'y avait plus d'amour de toute façon. Hein, ça y est, on n'avait plus de vie commune. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a beaucoup d'émotions, et il y en a énormément. Il m'envoie ça chez mes parents. La procédure démarre avec les convocations au tribunal tous les mois. On essaie de nous réconcilier. Et puis, par son avocat, il a fait dire des choses horribles. Tout ça pour essayer de donner une pension minime, pour une question d'argent. Donc, il a inventé des horreurs. On divorce. Et dès qu'on a obtenu le divorce, je pense 15 jours après, il s'est marié. Donc ça a confirmé...
Il s'est marié directement après.
Directement après. Donc il est venu, on a eu le divorce, moi qui avais le livret de famille, il est venu, il a fait un scandale à la maison, de manière très agressive, il faut le livrer tout de suite. Il l'a récupéré, il ne m'a jamais donné même pas la copie du livret de famille jusqu'à maintenant. Et il s'est marié juste après, 15 jours après. Et pourquoi il y a beaucoup, beaucoup d'émotions quand je raconte mon histoire, c'est que depuis ce jour-là où il s'est marié, il est venu prendre son fils deux fois, pour faire « je suis un beau papa », deux dimanches. Et depuis, il ne lui a plus jamais rendu visite jusqu'à maintenant.
Et vous habitez la même ville ?
On habite la même ville. Il a eu deux autres enfants. Donc mon fils a deux demi-frères qu'il ne connaît pas. Son père est encore vivant, il ne le connaît pas. Et il vit à Marrakech. Ça fait 10 ans. Il ne l'a pas vu grandir. Je fais tout toute seule, je m'occupe de mon enfant toute seule, de A à Z, et puis surtout, tout ça, je peux le faire, c'est pas un souci. Mais surtout, il n'y a pas, il ne connaît pas son père, il n'a jamais dit papa, il n'y a pas la présence, même s'il le voyait qu'une fois par an. Même une fois tous les 2 ans, juste.
Mais la loi, elle dit quoi, Zineb? La loi, elle prévoit quoi? Est-ce qu'un enfant n'a pas de droit sur ses parents aussi? Ses parents ont divorcé, mais est-ce qu'il n'a pas de droit sur ses parents?
Non, pas avant 18 ans.
C'est-à-dire que... C'est-à-dire, pas avant 18 ans.
Il ne peut pas, sauf s'il a envie, sauf s'il me dit « Maman, viens, on va le chercher, j'ai envie de sonner, j'ai envie de le voir. » Mais officiellement, rien du tout. Et surtout qu'il nous est arrivé de le croiser, parce que c'est une petite ville quand même. Hein, ouais. Et on était voisins en plus au début. Mais quand j'ai dit voisins, c'est le même quartier. Il a fini par déménager. Donc on le croisait à l'épicerie, sur la route. Et il l'a toujours nargué, son père. Moi, je l'ai toujours montré. Voilà ton papa. Je l'ai déjà montré, même les frères de loin. C'est tes frères. Mmh. Et c'est dur de. C'est vraiment dur de.
Alors, autre chose, Zineb. Parce qu'on sait que dans la loi marocaine, les droits restent chez le père, même si la mère a la garde. Mais beaucoup de droits restent chez le père, c'est-à-dire que pour lui avoir un passeport, pour lui avoir un compte bancaire, pour le changer d'école, pour l'inscrire à l'école,
exactement.
Tout ça, il faut la signature du père. Alors, comment tu as géré depuis 2011, depuis ton divorce, et ton bébé avait à ce moment-là 1 an, aujourd'hui 12. Il va en avoir bientôt 12, comment tu as géré pour lui avoir un passeport, pour lui avoir un visa, pour l'inscrire à l'école, pour toutes ces choses-là, alors que tu as zéro contact avec son père?
Alors justement, je parlais d'émotions fortes tout à l'heure par rapport à mon fils qui manque de l'amour de son père, hein, la première des choses, qui n'est pas là. Et là, c'est le deuxième volet, qui est moins important que l'amour que pourrait apporter un père à son enfant, mais quand même, qui est là et qui me fait beaucoup souffrir, c'est tout ce qui est autorisation, problème juridique, tout ce que je veux faire pour mon fils, absolument tout, il faut que je prenne un avocat et un dossier au tribunal. En ce moment, je suis en plein dedans. Je dois renouveler le passeport de mon fils. Mmh. Et bien, c'est un dossier entre les mains d'un avocat. Et ça met beaucoup de temps. Parce que ils blairont le père. Est-ce qu'on le trouve ou pas? Est-ce qu'il est au même travail? On ne sait pas où est-ce qu'il habite. Il faut envoyer l'huissier 1 fois, 2 fois, 3 fois pour ensuite attester qu'il ne l'a pas trouvé. Enfin, c'est toute une procédure. Ça me prend des mois.
Mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, Zineb. C'est-à-dire que toi, c'est ton vécu. Yek, c'est ton vécu. Ça, c'est ton histoire à toi. Tu la vis. Normalement, une mère qui a finalement pris en charge de A à Z son fils, le père n'est pas là, n'est pas présent, l'ex-mari n'est pas là, il donne rien, il ne voit pas son fils, pas d'amour, pas d'affection, pas d'argent, rien. Comment on peut encore lui laisser cette autorité? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que la loi soit de ton côté? Est-ce que tu ne peux pas avoir recours à un avocat pour essayer d'avoir... bon, déjà, tu as la garde exclusive, mais pour avoir aussi l'autorité exclusive, tutrice unique, toutes ces choses-là, parce que les années l'ont prouvé.
Eh bien oui, j'en souffre énormément, Yasmine, parce que j'ai tout fait. Je suis même allée taper à la porte d'un juge de famille, directement au tribunal. Une fois, j'ai attendu pendant 4 heures avec ma mère. Et je voulais absolument le voir pour discuter de ça. Je n'en pouvais plus. J'étais très, très frustrée. Et il m'a sorti une loi en disant « Regarde, mademoiselle, tel article, ça dit ça, et ce sera comme ça jusqu'à ce que ton fils ait 18 ans. Ça ne changera pas. C'est la loi. » Donc je vis dans la frustration. Parce que ce soit pour le passeport, que ce soit pour une demande de visa, que ce soit pour un établissement scolaire, le changer d'un établissement à l'autre, à chaque fois la signature du père, etc. Je suis toujours en train de faire des courriers, en train de rencontrer les directeurs, partout. Je suis toujours en train d'expliquer la situation et d'assurer que je vais être seule à payer l'école et d'assurer que dans toutes les procédures. Et ça, ce n'est pas normal. Qu'en ce moment même, je sois en train de renouveler le passeport de mon fils via le tribunal, parce que j'ai pas un petit papier de son papa qui autorise à le faire.
Et la même chose pour le visa, et la même chose pour le faire sortir, j'imagine.
Et la même chose, vous savez, quand je demande un visa, par exemple, c'est très compliqué, il faut que je m'y prenne 6 mois à l'avance. Donc déjà, il me faut l'autorisation du tribunal, du procureur, après vraiment avoir étudié le dossier, essayer de chercher le père, etc., parce qu'ils essayent de suivre la loi, avoir le courrier, toujours à l'amiable, et puis si ça marche pas à ce moment-là, c'est le procureur qui étudie mon dossier, qui s'assure que je vais pas kidnapper l'enfant et qui me donne l'autorisation. Sauf que l'autorisation que le procureur va me donner, il se base sur les vacances scolaires. Donc il va me donner, par exemple, là, l'été, il peut me dire de mi-juillet à mi-août.
Ok.
Si je demande un visa, donc vous imaginez que je dois expliquer aussi auprès du consulat et que mon dossier part dans un bureau spécial pour étudier le dossier, ils vont me donner un mois, juste le mois où le juge a autorisé. Et dans ce mois-là, je ne peux pas le sortir plusieurs fois. Par exemple, je peux l'emmener une semaine quelque part et je reviens. Et si la troisième semaine, je veux l'emmener encore en voyage, alors que j'ai encore un visa, il faut encore que je demande au tribunal de m'autoriser. Donc avec un avocat à chaque fois, etc. Je ne sais pas si...
C'est étouffant. C'est étouffant. C'est étouffant que finalement cette histoire continue à te suivre en tant que femme et en tant que mère.
Oui. C'est pour ça que tu ressens beaucoup d'émotions. Je suis extrêmement frustrée de devoir encore dépendre de son papa pour le bien-être de mon fils, alors qu'il n'est pas là. Il ne le connaît même pas. Rien.
Il t'en parle ?
C'est très frustrant.
Il t'en parle,
lui ? Ben mon fils, oui, il m'en parle, bien sûr, il le voit. Il voit une maman qui travaille beaucoup, une maman qui l'aide aux devoirs, une maman qui fait en sorte pour qu'il soit heureux et épanoui. Et là, ben, il y a les vacances d'été, il veut voir ses cousins. Il y a tout un programme familial qui se met en place, mais on ne sait pas, on ne se décide pas. Il le voit parce que le tribunal, l'avocat, il voit comment je cours dans tous les sens et...
Alors Zineb, on est dans une culture marocaine et on sait que les familles peuvent intervenir aussi dans ce genre de situation. Est-ce que, comme on dit, Hadsid, il n'a pas de sœur, il n'a pas de mère, il n'a pas de frère, il n'a pas de cousin, il n'a pas d'oncle, il n'a pas de tante. Il n'y a personne pour le raisonner, pour discuter avec lui ?
Alors les premières années, moi tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il s'est marié, il a un peu coupé avec toute sa famille. Je ne sais pour quelle raison, pendant des années. Notamment avec sa tante qui était vraiment la personne, une personne exceptionnelle pour lui. C'est la première personne qui m'a présentée. Et il a coupé avec elle jusqu'à maintenant aussi. Donc au début, ça a été très compliqué. À chaque fois, je les sollicitais. Je leur disais, s'il vous plaît, je ne demande même pas d'argent. Juste qu'ils signent le papier. Ça crée une signature. Ils disent, il ne répond pas. Et quand difficilement, il va répondre à un membre de la famille, très difficilement... Il raccroche au nez, ne me parlez pas de ça, c'est pas vos affaires. Donc il était très agressif. Récemment, là, comme je suis en train de renouveler le passeport, j'ai appris il y a 3-4 mois, parce que bon, je suis quand même... j'ai une relation avec sa sœur ou sa tante de temps en temps. On s'appelle pour prendre des nouvelles, c'est pas tout le temps, mais on a une relation correcte. Donc j'ai appris récemment qu'il a vu son frère et sa mère, etc., parce que je sais qu'il a coupé pendant des années avec eux.
Avec tout le monde.
Avec tout le monde, oui. Il s'est marié, il a fait ses enfants, et puis il a coupé avec tout le monde. Je ne connais pas la raison, mais en tout cas, voilà. Vu que moi, j'étais en contact avec la belle-famille. Donc là, récemment, j'apprends ça, il y a 3 mois, et je me dis, bon, puisqu'il a vu sa famille, je vais essayer de joindre son frère, que j'ai eu peut-être au téléphone avec moi, pour voir... Il y a moyen qu'il lui parle juste pour me signer le papier, pour renouveler le passeport, pour m'éviter toutes les galères habituelles. Et j'ai essayé de joindre le frère, je lui ai expliqué au téléphone rapidement. Et bon, il était au travail, il m'a dit « je te rappelle ». Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Et je ne suis pas le genre de femme à... « comme on dit. Voilà. Donc j'ai dit « bon, bah tant pis, s'ils ne veulent pas aider ou s'ils oublient, moi, il faut que j'avance pour mon enfant. »
Zineb, Comment ton pays peut t'aider dans cette situation ?
Là, j'ai un grand message pour mon pays. Hein. C'est de se pencher sur nous, les femmes dans ma situation, hein, qui sont divorcées, qui ont des enfants comme moi, et qu'on ait autant de droits que les papas. C'est tout ce que je demande, qu'on ait exactement les mêmes droits. Parce que c'est moi qui ai porté mon fils pendant 9 mois, et c'est moi qui ai tout fait jusqu'à maintenant. Et même si son papa était là, à côté de moi, il s'en est occupé, on aura tout fait ensemble. On dit les parents, le père et la mère. Donc, il faut que la loi absolument, elle change en notre faveur. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est très, très frustrant. Même la facture de l'école, je vous donne un exemple. Elle vient, c'est moi qui paye l'école, mais elle est au nom de son père. Pourquoi ? C'est le système, ça sort comme ça. Voilà, parce que le premier jour, il est fils de Zineb et fils d'un tel. Donc la facture d'école arrive au nom du père. Alors que c'est moi qui paye l'école, il ne sait même pas dans quelle école son fils va. Tu comprends la frustration ? Ce n'est pas normal. Détail, voilà, petit détail, mais je suis très frustrée par rapport à ça. Il faut absolument qu'on ait les mêmes droits. Son père n'est pas là, j'ai la garde, je fais tout. Eh bien, j'ai le droit de renouveler un passeport à mon fils, j'ai le droit de l'emmener en voyage, j'ai le droit de l'inscrire à tel endroit ou tel endroit.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.